Bonjour, la section Nasso est la deuxième du livre des nombres. Ce qui a retenu mon attention dans cette section, dans ce livre d'abord, qui s'achève dans cette section, c'est le décompte du peuple d'Israël. Il y a plein de sujets extrêmement intéressants, mais c'est une notion qui m'a interpellée et qui interpelle également Rashi, puisque lui-même en parle en ces termes. Mitor ribatan lefanav mone otam kol sha'a. Parce qu'ils lui sont chers, il les compte à différents moments. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte, il les compta. Lorsque beaucoup tombèrent par la faute du veau d'or, il les compta, afin de connaître le nombre de ceux qui restaient. Enfin, lorsqu'il s'apprêta à faire résider sa présence divine parmi eux, au moment donc de l'inauguration du temple, il les recensa de nouveau. Donc, selon les propos de Rashi, c'est parce qu'ils lui sont chers. C'est effectivement quelque chose qui revient dans ces termes, puisque dans notre section, à nouveau, on termine avec le compte général des Lévim, Vayu Pikudehem Shmonat Alafim Vechamesh Meot ou Shmonim, donc dans Bamidbar 4, 48. J'ai pu lire en fait le troisième volet des origines du totalitarisme de Hannah Arendt, le système totalitaire. Et en lisant ces deux textes en parallèle, tout à fait par hasard, je ne vais pas dire que c'est par hasard que je lis ce livre actuellement, mais c'est par hasard que ce soit croisé, qu'il y ait eu ce regard croisé sur ces deux textes. Ce qui m'a sauté effectivement aux yeux également, ce que relève Hannah Arendt, c'est que ces systèmes totalitaires s'appuient sur la masse. C'est la quantité d'informations qu'elles ne nous fournissent pas qui est stupéfiante, notamment aucune indication du nombre des victimes en parlant des purges de 29 à 37 en Russie. Elle met en avant le fait que ce qui va permettre un système totalitaire d'exercer son pouvoir, c'est la masse. La masse silencieuse en fait au départ et c'est celle-ci qui va être qui ne va pas compter en fait, donc l'effacement total de l'individu. Donc à contrario, on voit ça saute aux yeux quand on lit après Bamidbar de voir combien c'est spécifiquement le fait que chaque membre est dénombré à une place, parce que dans les nombres, dans le livre des nombres, le recensement n'est pas seulement statistique. Le texte, il insiste vraiment sur les noms, les familles, les tribus, la place de chacun dans le camp. Et donc l'opposition, elle est flagrante. Et ça m'amène à l'ordre que reçoit à Aaron et ses fils, Kotevarechu et Ben Israël à Morlaem. Un peu comme si Hachem révèle le dessein de tout ce projet, c'est de pouvoir amener le shalom. Et Daber el Aaron vel Manav les morts, Kotevarechu et Ben Israël à Morlaem. Et là on est donc dans le texte de bénédiction des Kohanim, des prêtres, qui devaient donc dire tous les jours, à chaque moment de la journée, donc ça va être fait après dans la tfila, mais donc l'ordre, si je devais donc traduire la bénédiction, ce qui est très important, c'est de la traduire parce qu'elle va nous révéler effectivement quelque chose d'extraordinaire. Hachem parla à Moïse en disant, parla à Aaron et ses fils en disant, ainsi bénirez-vous les enfants d'Israël, donc les enfants d'Israël, en leur disant que Hachem te bénisse et te protège individuellement. Donc il s'adresse individuellement, que Hachem éclaire sa face pour toi et te soit bienveillant. Que Hachem lève sa face vers toi et t'accorde la paix. Qu'il place mon nom sur les enfants d'Israël, et là on revient à la notion de peuple, et je les bénirai. Cette bénédiction, elle est extraordinaire parce qu'elle résume les idées qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que on amène le shalom, il est amené à chacun dans son individualité. Yevarechecha, alors c'est le Netziv qui est un commentateur, connu pour avoir dirigé la yeshiva de Volozhin. Et avoir écrit donc ce fameux commentaire Emek Davar qui relève Yevarechecha, donc l'individualité, quand le Kohen s'adresse à tout Israël. Tout homme selon ce qu'il convient de le bénir. Comme il est dit dans le verset donc de Devarim, Deutéronome 16-17, Ish kematnat yado kevirkat Hashem elokecha asher natanla. Incroyable. Chacun selon la capacité de sa main, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu qu'il t'aura donnée. La bénédiction ici, elle est donnée selon ce que l'homme a eu comme réussite personnelle. Donc, dans toute sa différence, dans toute sa particularité, il est béni. Jusqu'à qu'il puisse être donc que ce soit une réussite dans son commerce, alors la bénédiction sera sur son commerce, sur sa Torah, ça sera une bénédiction sur sa Torah. C'est ainsi qu'il est inclus dans cette bracha globale, donc cette bénédiction globale adressée à tout Israël. Il y a donc cette notion individuelle où Hachem te bénira et qui fait émerger un visage à chacun. C'est-à-dire que c'est le visage de chacun, hein, puisque Hachem tourne son visage vers chacun, hein, et fait émerger le visage, l'individualité de chacun. Chacun selon la capacité de sa main, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu, qu'il t'aura donné. Donc la bénédiction, elle est donnée selon ce que l'homme a eu comme réussite personnelle. Jusqu'à là, celui qui étudie la Torah aura plus de Torah, celui qui a eu une réussite dans le, qui s'est investi, engagé dans le commerce, aura une bénédiction sur son commerce. C'est ainsi qu'il est inclus dans cette individuellement dans cette bracha globale, donc collective, plutôt adressée à tout Israël. Donc c'est une notion individuelle où Hachem s'adresse à la deuxième personne, te bénira sur une bénédiction pour chaque homme dans ce sur quoi il a déjà une réussite, un engagement, j'ai envie de dire. Donc on voit ici le caractère individuel. Donc j'ai envie de le rappeler par opposition, la paix dans la Torah ne naît pas de la fusion des masses, ni de l'effacement des consciences individuelles, bien au contraire, mais de la reconnaissance de chaque visage humain. La Torah, donc ici, c'est flagrant, elle organise un peuple composé d'êtres. Là où l'homme disparaît dans la foule, la haine devient possible. Et là où chacun compte, le shalom peut apparaître. Ce qu'il faut noter, c'est que cette bénédiction des Kohanim, elle a disparu ces derniers siècles et elle a été décidée par des décisionnaires. On préférait la mettre en pause jusqu'au retour en Israël. Effectivement, ce qui est pour ceux qui ont pu avoir l'occasion de le vivre, la Birkat Kohanim en diaspora, elle est partagée que dans les moments de grande joie collective, les trois fêtes, Pâques, donc il y a Pessah, Shavuot et Sukkot, pour certains Shabbat, pour les Sfaradim, mais en Israël, chaque jour que Dieu fait la Birkat Kohanim, qui est le seul héritage qu'on a encore du Beit HaMikdash, les Kohanim la font, parce que justement... dit le Midrash Tanhuma dans Nassau, Vayi Bayom Kalot Moshe, donc en reprenant ce verset, Amar Rabbi Yehuda Bar Siman, et je vous le traduis, Rabbi Yehuda Bar Siman affirme, le jour où le sanctuaire fut érigé, Moïse pénétra à l'intérieur et entendit dans des sons majestueux. Moïse dit, je veux entendre ce que Dieu l'Éternel va dire. Donc c'est les psaumes. Donc le Saint béni soit-il dit à Moïse, je vais leur parler de paix. Ainsi qu'il est écrit, car c'est de paix qu'il parlera à son peuple et à ses pieux sujets, mais qu'ils ne retournent pas à leur folie, en invitant donc le peuple d'Israël à ne pas retourner dans la folie de la division. Ensuite il est dit, en vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, et je vais le citer, Urtiv Batrei, Ach Karov Lireav Ishro, Lishkon Kvod Bartseinu. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin qu'il puisse demeurer honorablement dans notre pays. Donc, Eret Israël. Il faut savoir, c'est que la Birkat Kohanim, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, c'est vraiment donc une mitzvah mina Torah qui est toujours en vigueur. Elle a été, pendant des siècles, par les décisionnaires, elle a été mise en pause en diaspora, comme si c'était impossible d'envisager la paix en dehors d'Israël, donc en dehors de la présence du peuple d'Israël sur sa terre. Et c'est vrai pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Israël ces derniers, de se rendre compte, effectivement, c'est ce qui ça saute aux yeux. Il y a Birkat Kohanim aujourd'hui à tous les moments de la journée. Qui est en diaspora, chose qui ne se fait pas, hein. Les Ashkenazim le font pendant les trois fêtes, les Sfaradim le font également le Shabbat, mais donc les décisionnaires ne pouvaient pas envisager les choses autrement que dans une totale simcha pour les Kohanim, et cette totale simcha, elle était possible que par un retour du peuple d'Israël sur cette terre. Donc il y a vraiment une aspiration à ce que ça se fasse comme ça, comme si le shalom, effectivement, donc pour revenir, comme si que le shalom n'est possible qu'une fois que dans notre différence, chacun, dans un respect de nos différences, comme Akash Bohu, comme Dieu nous le propose lui-même dans sa proposition, c'est de dire, ben, dans notre différence, dans nos engagements différents, on est chacun béni. Et évidemment, et pour que cette unité elle soit possible, elle peut l'être qu'une fois qu'on sera tous réunis sur notre terre. Comme le souligne le Rav Tertal, Zal, dans son livre Em Avanim Semecha, dans le Perek Revi'i, quand ils demeureront ensemble paisiblement, comme un seul homme, ils accompliront en vérité son salut. Donc, il cite, son salut est proche de ceux qui le craignent, de sorte qu'il puisse demeurer honorablement dans notre pays. Cela s'applique également au futur, à notre génération, pour indiquer qu'il en sera toujours ainsi. Lorsqu'ils sont unis, ils acquièrent le mérite de demeurer honorablement dans notre pays. On est dans un temps qui amène le flou, les incertitudes, les doutes sur les uns et les autres. Donc l'idée, c'est de se rappeler à notre dessein le fait d'amener le shalom. Ne pas sauter sur les premières occasions pour se précipiter, pour condamner, c'est se rappeler qu'on est que notre destin, il est fragile, il est merveilleux, on peut en être fier, mais il est fragile et il demande un engagement sérieux, sincère de tous les moments. Je vous souhaite des belles fêtes de Shavuot, Shabbat Shalom. Merci.